le budget de la France et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Sébastien Lecornu propose de concentrer les ultimes négociations sur ces deux sujets. Objectif pour la Nouvelle-Calédonie, faire adopter la proposition de loi organique pour reporter les élections provinciales. Les feux à usage non domestique interdits aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'indique la DSCGR dans un communiqué. Dès qu'une commune est placée en risque extrême feu de forêt, alors tout le territoire est concerné par cette interdiction. L'actualité internationale, 25 000 personnes réunies à Tel Aviv à l'appel des familles d'otages pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre. Pendant ce temps-là, les négociations se poursuivent en Égypte autour du plan de paix pour Gaza. Le sport et deux clubs français faisaient leur entrée en lice en Ligue des champions féminines pour l'ouverture de cette compétition européenne. Lyon a battu Arsenal 2-1 et le Paris FC et Louvain ont fait match nul 2-2. Bonjour et bienvenue dans Infomac pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. La Nouvelle-Calédonie décrétée urgence nationale. Alors que la France est confrontée à une grave crise politique, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a proposé au socle commun de la droite et du centre de concentrer les négociations sur deux sujets, le budget et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Tous les partis du socle commun ont convenu de ces deux urgences avec une volonté partagée de trouver une issue rapide, a déclaré Sébastien Lecornu. Et on le sait, ici, l'urgence autour de la Nouvelle-Calédonie tient à la proposition de loi organique qui vise à reporter les élections provinciales et qui doit être adoptée très rapidement si on veut éviter que ces provinciales aient lieu avant fin novembre, Elisabeth Noir.
L'adoption de la proposition de loi organique qui reporte les élections à juin 2026 est l'une des conditions indispensables à la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Le texte devrait être examiné le 22 septembre au Sénat, mais en l'absence de gouvernement, son examen avait dû être repoussé. Et le temps presse parce que la loi doit être promulguée avant le 2 novembre, c'est-à-dire 4 semaines avant le scrutin prévu au plus tard le 30 novembre. À défaut, les électeurs calédoniens seraient automatiquement convoqués pour renouveler les assemblées de province et avec un corps électoral gelé. Mais on relève aussi que malgré la crise politique nationale et alors que Sébastien Lecornu est chargé de mener d'ultimes négociations pour définir d'ici mercredi soir une plateforme d'action et de stabilité, la situation de la Nouvelle-Calédonie n'est pas oubliée. Dans un communiqué, le député Nicolas Mezoff relève que dans un moment où tout vacille à Paris, notre île continue d'être considérée comme une priorité nationale. C'est un signal fort, écrit-il. Même dans la crise, la République n'oublie pas la Calédonie.
C'est vrai que c'est une urgence nationale. Alors après, on a énormément de chance que ce soit Sébastien Lecornu, toujours Premier ministre d'ailleurs, qui soit à la manœuvre pour ces négociations, parce que comme vous le savez, Sébastien Lecornu est un amoureux de la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai qu'on a pas mal poussé à notre niveau pour que les présidents d'Assemblée, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, se saisissent de cette loi qui décale les élections provinciales. Et donc Lecornu, qui a une oreille attentive sur la Nouvelle-Calédonie, a entendu nos réclamations, donc c'est une bonne nouvelle.
Il y a urgence pour la Nouvelle-Calédonie et aux dernières nouvelles, la proposition de loi organique qui reporte les élections provinciales pourrait finalement être examinée dès la semaine prochaine par le Sénat. C'est ce que nous a annoncé ce matin le député de la première circonscription. Il en a eu confirmation de la part du président du Sénat, Gérard Larcher.
J'ai eu un long échange là au téléphone avec Gérard Larcher, le président du Sénat, qui me dit qu'une note du secrétariat général de l'Élysée permettrait l'adoption en urgence de la loi qui décale les élections en Nouvelle-Calédonie. Et si cette note est confirmée par les experts juridiques du Sénat, il est probable que la loi organique décalant les élections soit proposée en conférence des présidents la semaine prochaine au Sénat à Paris.
L'adoption de cette loi organique permettrait donc le report des provinciales au mois de juin 2026. Mais il faut encore rester très prudent. L'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas encore écartée, comme celle d'une éventuelle démission du président de la République. Autant d'événements qui seraient susceptibles de remettre complètement en cause tout le calendrier, d'où la prudence du député Mezdorf.
C'est avec beaucoup de si, hein, donc si cette note est confirmée possible, c'est inscrit la semaine prochaine au Sénat, et évidemment, derrière, ça pourrait découler tranquillement derrière pour le calendrier calédonien, à condition évidemment qu'il n'y ait pas une démission du président de la République ou une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que moi, le message que j'ai à passer aujourd'hui, il est aussi de dire, attention, ne tombons pas dans le piège de se prendre au jeu de la politique nationale. Nous, en Nouvelle-Calédonie, on a un intérêt qui est simple, c'est celui d'aller jusqu'au bout de l'accord de Bougival et de l'appliquer. Et pour ça, il faut qu'il y ait des textes qui passent dans les deux assemblées, Sénat et Assemblée nationale, dans les mois qui viennent. Et toute toute dissolution, toute démission du président de la République, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Emmanuel Macron, met en péril l'application d'un accord qu'on a trouvé pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, met en péril derrière les aides pour la Nouvelle-Calédonie, met en péril le corps électoral pour la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, moi ce que j'ai à dire aux Calédoniens ce matin, c'est qu'il faut rester concentré sur l'intérêt de notre territoire qui est particulier à ce moment-là de l'histoire.
En clair, la Calédonie a besoin d'une stabilité politique nationale et on est loin du compte pour l'instant. Sébastien Lecornu a fixé deux priorités, le budget et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et les deux sujets nous concernent très directement. La Calédonie a en effet aussi besoin que l'État se dote d'un budget pour l'aider à passer l'année 2026.
Et au titre de l'urgence, la proposition de loi organique sur le report des provinciales pourrait être examinée dès la semaine prochaine par le Sénat. Mais les deux parlementaires indépendantistes calédoniens contestent cette volonté, Elisabeth.
Dans un long communiqué, le député Emmanuel Tchibaou et le sénateur Robert Rowy contestent la volonté du gouvernement démissionnaire de faire adopter la proposition de loi organique de report des élections provinciales sous couvert d'urgence. Ils expriment leur vigilance et préoccupation en considérant que le caractère d'urgence attaché à la situation calédonienne ne saurait en aucun cas justifier un passage en force, ni le contournement du dialogue politique. Emmanuel Tchibaou et Robert Rowy affirment que l'avenir de notre pays ne peut être engagé sur la base d'un texte contesté, fondé sur un accord non partagé et juridiquement incertain. Pour eux, le report du scrutin provincial constitue un acte politique majeur et une telle décision ne peut être prise, écrivent-ils, que dans un cadre apaisé, légitimé par un consensus clair entre les partenaires politiques et avec un gouvernement pleinement investi, disposant d'un mandat clair et d'une majorité effective. Ils estiment que dans un contexte national marqué par une instabilité notoire à l'Assemblée, il serait dangereux que la Nouvelle-Calédonie devienne l'otage de calculs politiques ou de décisions hâtives prises sous la pression du calendrier. Les deux parlementaires indépendantistes rappellent aussi la récente décision du Conseil constitutionnel sur le gel du corps électoral pour affirmer que cette décision écarte tout risque de contentieux électoral et retire donc au gouvernement tout motif d'urgence pour imposer dans la précipitation un report du scrutin. Emmanuel Tchibaou et Robert Rowy qui affirment enfin que dans ces conditions, rien ne s'oppose à la tenue des provinciales avant la fin d'année 2025, conformément à la loi actuellement en vigueur. Une prise de position sans surprise, mais qui risque de compliquer encore un peu la situation. Elle est relayée sans surprise là non plus par un communiqué du bureau politique du FLNKS qui appelle les parlementaires français à ne pas faire de la Nouvelle-Calédonie un enjeu de leur lutte politique interne et à refuser toute logique de passage en force. Le FLNKS qui affirme qu'organiser les élections provinciales en novembre n'est ni contraire à la Constitution, ni dangereux pour le pays.
Alors, la Nouvelle-Calédonie et le budget de la France sont les deux urgences, mais les autres dossiers brûlants ne sont pas totalement écartés des prises de parole. Alors que la France s'enfonce jour après jour dans la crise politique et que le spectre de la dissolution plane au-dessus de la classe politique, l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne veut à tout prix éviter cette option. Et pour cela, la ministre de l'Éducation démissionnaire se dit ouverte à une suspension de la réforme des retraites qu'elle a elle-même portée en 2023. Et ce matin, après une rencontre avec Sébastien Lecornu, le leader de Place Publique, Raphaël Glucksmann, estime que la suspension de cette réforme controversée devient possible. Cette concession majeure pourrait intervenir dans le cadre d'une hypothétique coalition allant du PS à la Macronie pour prendre la suite du gouvernement Lecornu. Les négociations avec les différentes forces politiques seront menées jusqu'à demain matin par le Premier ministre démissionnaire. Et en cas d'échec, le président de la République, lui, promet de prendre ses responsabilités, ce qui semble ouvrir la porte à une nouvelle dissolution, Arthur Delaborde.
L'hypothèse d'un retour aux urnes gagne en crédibilité. Cet après-midi, Emmanuel Macron a reçu la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Des consultations loin d'être anodines. Elles sont prévues par l'article 12 de la Constitution avant toute dissolution. Mais du côté de Gérard Larcher, on temporise. La dissolution n'a pas été abordée, assure son entourage. Reste que les préfets ont reçu pour consigne de se préparer à d'éventuelles législatives les 16 et 23 novembre prochains. Autre scénario, la nomination d'un nouveau Premier ministre. À droite comme à gauche, la cohabitation s'impose désormais comme l'option la plus défendue. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, y voit une manière d'éviter toute fusion avec le macronisme. Il a été reçu ce soir à Matignon séparément de Laurent Wauquiez. Le Parti Socialiste plaide lui aussi pour une cohabitation, mais avec un gouvernement mené par une personnalité de gauche. Ses dirigeants seront reçus demain matin à 10h par Sébastien Lecornu.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors ce nouvel épisode dans l'interminable crise politique que traverse notre pays a débuté hier matin par la démission surprise de Sébastien Lecornu. Le départ du Premier ministre de Matignon qui a été précipité en quelque sorte par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, mécontent de la composition du gouvernement dévoilée lundi matin. Cette fronde du président des Républicains ne fait pas l'unanimité au sein de son parti. Les députés LR se sont d'ailleurs réunis en urgence aujourd'hui et la colère était palpable, Mayalène Trémollet.
Oui, le torchon brûle entre les élus du parti mené par Laurent Wauquiez et leur président Bruno Retailleau. Ça s'est très mal passé, confie un participant à la réunion pour qui le ministre de l'Intérieur a, je cite, détruit un accord négocié pendant une semaine et a abîmé l'image du parti. Dans l'entourage de Laurent Wauquiez, on réclame désormais une négociation de fond sur le budget qui conditionnera ou non une prochaine participation au gouvernement. Mais Bruno Retailleau pose lui aussi ses conditions. Pour le ministre de l'Intérieur, une page est tournée, à savoir celle du socle commun. Il était ce matin l'invité de la grande interview CNews Europe 1.
Ce qui est exclu, c'est que LR se fonde, se dissolve dans une majorité macroniste.
Vous ne fermez pas la porte à une éventuelle participation
à une condition,
dans un gouvernement.
À une condition, c'est que ce soit un gouvernement que j'appellerais de cohabitation.
Là encore, la déclaration du président des LR divise. S'il veut une cohabitation, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il veut le Parti Socialiste ou le Rassemblement National à Matignon? Soupire un député qui ajoute, dans tous les cas, la droite est perdante et le risque de dissolution augmente.
Mayalène Trémollet pour Europe 1 est symbole de ces tensions entre les députés et l'état-major des Républicains. Vous l'avez entendu, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez se sont rendus séparément aujourd'hui à Matignon dans le cadre des consultations organisées par Sébastien Lecornu. Le chef des députés LR, Laurent Wauquiez, fait savoir à ses troupes que le Premier ministre l'a prévenu. Sans la droite au gouvernement, ce sera soit un Premier ministre de gauche, soit la dissolution. Les états-majors des partis qui se préparent déjà à cette éventualité, notamment le RN qui, en cas de majorité relative, est prêt à tendre la main aux députés LR qui le souhaitent. Philippe Ballard est le porte-parole du parti.
On sait très bien qu'il y a une partie des députés LR qui pourrait très bien, si on arrivait au pouvoir, eh bien venir travailler avec.
Alors que les nouvelles élections soient convoquées ou non, la démission de Sébastien Lecornu éloigne la possibilité de faire adopter un budget au Parlement avant la fin de l'année. Le dépôt des projets de loi devait avoir lieu aujourd'hui et la présentation au Conseil des ministres au plus tard lundi prochain. Ça semble évidemment compromis. Pourtant, les textes sont bel et bien finalisés, Barthélémy Philippe.
Oui, le budget est prêt, mais son dépôt au Parlement est la prérogative d'un gouvernement de plein exercice. Or, le Premier ministre Sébastien Lecornu est démissionnaire. Le budget ne sera donc pas transmis au Parlement aujourd'hui. Et le délai constitutionnel de 70 jours prévu pour l'examen et la promulgation du texte avant le 31 décembre ne pourra pas être respecté. C'est donc le recours à la loi spéciale, comme en début d'année, qui va s'imposer. Elle reconduit le budget de l'année précédente à l'identique. Pour le reste, seul le prélèvement des impôts et le décaissement des crédits nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés. Une loi spéciale dont la durée dépendra du scénario politique, comme l'explique l'économiste Anthony Morlet, La Vidali.
Ce qui est probable, c'est que si un nouveau gouvernement est nommé rapidement, il puisse déposer une copie courant octobre. On devrait en passer par une loi spéciale sur les premiers jours de 2026. En cas de dissolution, il est peu probable d'avoir un budget proposé avant la mi-année.
6 mois pendant lesquels rien ne pourra être entrepris pour stopper la folle dérive des finances publiques.
Barthélémy Philippe pour Europe 1. Et dans ce contexte, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, prévient que toutes les instances européennes regardent attentivement l'évolution actuelle en France et espèrent vivement que des chemins seront trouvés pour respecter les engagements internationaux.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Quelle est, selon vous, la solution pour sortir de la crise politique sans précédent que connaît la France? Si vous êtes partisan de la nomination d'un nouveau Premier ministre, vous tapez 1. Si vous êtes partisan d'une dissolution de l'Assemblée nationale, vous tapez 2. Et si vous êtes partisan d'une démission du Président de la République, alors vous tapez 3 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier à présent, 93% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent déçus de la démission de Sébastien Lecornu. Ils sont 7% à dire que cette démission ne les déçoit pas. Merci pour votre participation. Et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 11h passé de 45 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité calédonienne. Et on a notamment parlé de Bougival à New York.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Hyper U Païta fête son premier anniversaire et sort le grand jeu pour vous gâter. Du 1er au 11 octobre prochain, participez au grand jeu anniversaire et tentez de repartir avec l'un des 10 pick-up Power King Kong à gagner. Remplissez votre bulletin de jeu et déposez-le dans l'urne prévue à cet effet. Tirage sort le samedi 11 octobre à 16h, remise des clés le dimanche 12 octobre. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement déposé chez Maître Citrita, huissier de justice à Nouméa.
U, commerçant autrement.
Les 9 et 10 octobre prochains, le jeudi du centre-ville célèbre Tahiti au grand cœur.
La ville de Nouméa vous invite à deux jours de fête sur la place des Cocotiers, dans une ambiance chaleureuse et colorée.
De 9h à 19h, de l'artisanat d'art, des stands culinaires et de nombreuses animations. Toutes les saveurs, les couleurs et les rythmes du Fénoua en plein cœur de Nouméa.
Les 9 et 10 octobre, Tahiti vous ouvre ses bras. Toutes les infos sont sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
La quatrième commission de décolonisation de l'ONU réunie à New York avec plusieurs pétitionnaires calédoniens. Ce matin pour nous, Naya Wateu et Marie-Laure Ukewe se sont exprimés à la tribune pour défendre, selon leurs mots, une nouvelle Calédonie rassemblée, digne et résolument tournée vers l'avenir. Naya Wateu s'est présentée comme citoyenne engagée et élue de la province sud et elle s'est notamment adressée aux pétitionnaires indépendantistes.
La Nouvelle-Calédonie a connu un chemin singulier de décolonisation. Au terme des 3 référendums, les Calédoniens ont voté, affirmé et confirmé un statut de la Nouvelle-Calédonie dans la France. À certains de mes collègues indépendantistes qui aujourd'hui renient cet accord, je leur dis ici qu'il n'est pas sérieux de demander la tenue du 3e référendum pour ensuite le boycotter. Qu'il n'est pas responsable de signer un accord pour ensuite dire qu'il n'est pas valable car pas paraphé. Qu'il est encore moins entendable de signer un document qui dit qu'on n'a pas signé. La fuite et le déni ne sont pas des options acceptables en cette période tumultueuse.
Le destin de la Nouvelle-Calédonie appartient aux Calédoniennes et aux Calédoniens et à nul autre, a encore déclaré Naya Wateu, et elle a défendu l'accord de Bougival.
L'accord de Bougival illustre ce que l'ONU qualifie de quatrième voie de décolonisation. Une solution négociée, construite sur le consensus et tournée vers la création d'un statut sur mesure, en phase avec la réalité de notre territoire et la diversité de ses populations. Il porte l'ambition d'un État calédonien autonome, dans la France, affirmé dans ses relations internationales et fier de sa nationalité propre. En évoquant le transfert de compétences et un surcroît d'autonomie, il s'inscrit dans la continuité du processus entamé il y a plus de 20 ans.
Naya Wateu qui s'en est également prise aux ingérences extérieures et à ceux qui voudraient réécrire l'histoire avant d'appeler à choisir la voie de la responsabilité, du respect et de la relance. L'actualité sur le territoire à présent est le risque de feux de forêt extrêmement important sur plusieurs communes du territoire. Ce matin, les services de Météo France ont alerté sur le danger, notamment dans les secteurs de Canala, Kouaoua, Point-Dimier, Touo et Bélep. La cellule feux de forêt de la DSCGR a donc réagi en interdisant tout usage de feux non domestiques, et ce, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Le capitaine Alexandre Rossignol, officier de communication à la sécurité civile, appelle la population à la plus grande vigilance.
Toute la Calédonie est en risque jaune, orange et rouge. On est vraiment dans les risques extrêmes, de par les conditions météo qui sont défavorables. Il était important justement de signaler, d'alerter la population sur les interdictions de feu. Alors ce qui est interdit, c'est l'usage du feu sur tout le territoire au niveau environnemental. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de l'éco-buage, pas de faire de barbecue, de par la carte de vigilance et les forts vents qu'on a actuels qui ont provoqué de la sécheresse. Donc on a un risque de feu qui est extrêmement important.
La direction de la sécurité civile et de la gestion des risques du gouvernement qui se prépare pour intervenir rapidement en cas de feu.
On a toujours une pression feu de forêt qui est assez constante. L'année dernière, elle était un peu moindre. On a eu pas mal de pluie. Cette année, pour l'instant, elle est plutôt stable, mais on est extrêmement vigilant parce que on a quand même tous les indicateurs dans le rouge et qui sont propices à un départ de feu. Nous, on a des actions, c'est-à-dire qu'on a prépositionné des moyens en renfort dans les zones rouges. Les pompiers des communes sont mobilisés, plus les pompiers de la sécurité civile qui sont en renfort. Alors, ces deux véhicules, pour l'instant, qui ont été prépositionnés sur Koné-Koumak, plus l'hélicoptère bombardier d'eau pour pouvoir justement être au plus près des départs de feu éventuels.
Et aujourd'hui, les écobuages et les brûlages de déchets ainsi que les barbecues en pleine nature sont interdits, au moins donc jusqu'à la fin de l'année. Et puis 350 pieds de cannabis saisis hier à la tribu de Saint-Louis au Mont-d'Or. Les gendarmes mobiles aidés de la brigade territoriale sont intervenus au cours de deux grosses opérations, Charlotte Coulson.
Une première, ce mardi matin, les forces de l'ordre sont intervenues sur un terrain au cœur de la tribu où ils ont découvert 150 pieds de cannabis ainsi que 4 armes à feu détenues illégalement. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue. Plus tard dans la journée, journée, une seconde opération de saisie a été menée avec succès. Dans le même secteur, les gendarmes ont découvert une culture de 200 pieds de cannabis. Deux personnes ont cette fois été interpellées. Des enquêtes sont en cours pour détention de produits stupéfiants et détention d'armes. Les pieds ont quant à eux été arrachés et détruits. Ce lundi déjà, la gendarmerie communiquait sur une vaste opération de démantèlement à Wailou. 1800 pieds de cannabis de toute taille ont été découverts et saisis en seulement 2 jours.
Dans le reste de l'actualité, de futurs ingénieurs se sont affrontés ce matin au cours des Olympiades des sciences de l'ingénieur. Des élèves de première et de terminale ont présenté des projets innovants à des professeurs, mais aussi des chefs d'entreprise de la tech. Un challenge qui a réuni 65 lycéens, Charlotte.
Et que de curiosité ce matin sur les tables de la station N. À droite, un drone récupérateur de déchets sous-marins. À gauche, une lampe gravitationnelle ou encore une éolienne de camping. Il n'y a pas beaucoup de points communs entre ces projets, pour le moins surprenant, si ce n'est qu'ils ont été pensés et conçus par des lycéens. Aujourd'hui, 14 équipes se sont affrontées lors de la seconde édition locale des Olympiades des sciences de l'ingénieur, un événement coordonné par Oriane Aubert, professeure de sciences de l'ingénieur en classe préparatoire.
L'idée, c'est d'avoir une problématique technique et d'essayer d'y répondre à travers un objet. Ça peut être un système qu'on va chercher à améliorer, dont on va chercher à détourner le fonctionnement pour répondre à un nouvel objectif. Et donc, il y a un aspect modélisation numérique, prototypage, réalisation. Et puis là, dans le cadre des Olympiades, communication aussi autour du projet. Ces projets ne sont plus évalués au baccalauréat depuis la dernière réforme des programmes, donc ça leur donne une finalité, le fait de venir les présenter lors d'Olympiades, de s'affronter, mais de façon très ludique et bon enfant, avec des jurys, des membres du jury qui vont venir les interroger, des jurys enseignants et non enseignants, des membres aussi de la French Tech, de l'innovation technologique en Nouvelle-Calédonie.
Une expérience enrichissante pour les élèves qui travaillent sur leurs projets innovants depuis le début de l'année, mais ils n'ont eu que 48 heures pour se préparer à l'événement. Du côté du lycée Jules Garnier, 5 jeunes de terminale spécialité sciences de l'ingénieur ont présenté un projet dont ils sont fiers.
C'est un oiseau bionique qui relève du biomimétisme. C'est l'imitation technique des processus mis en œuvre par la nature. Et du coup, comme il ressemble à un vrai oiseau et qu'il vole comme un vrai oiseau, cela permettrait de faciliter l'accès à l'étude d'espèces animales dans leur milieu.
Oui, moi ça m'a beaucoup intéressé, surtout avec mes camarades. Quand on passe le bac aussi, du coup le fait de faire du projet, ça nous libère, ça nous fait du bien, quoi.
On rencontrait pas mal de difficultés. On a été confrontés à pas mal d'échecs. Donc il a fallu à chaque fois mettre en œuvre notre démarche d'ingénieur, c'est-à-dire de à chaque fois réfléchir à une solution.
Ça vous apprend à rebondir.
Exactement. Et même, ça nous apprend des choses. Voilà, on est là aussi pour apprendre.
Et pour les organisateurs, cette seconde édition des Olympiades des sciences de l'ingénieur est un succès. Ils espèrent renouveler l'expérience l'année prochaine.
Et puis on a parlé d'un très bel événement aussi sur Radio Rythme Bleu ce matin. C'est Anthony Knapik-Briden, le vice-président de Rêve de Gosse France, qui était notre invité à 7h30. Avec lui, nous sommes revenus sur la journée extraordinaire qui s'est déroulée hier à l'aérodrome de Magenta et qui aura vu une centaine d'enfants voler au-dessus du lagon. Nous avons également évoqué avec lui l'association Rêve de Gosse qui fêtera en 2026 ses 30 ans.
C'est une association qui a pour but l'acceptation de la différence et de promouvoir l'inclusion. En fait, on utilise l'aéronautique, l'avion, le tour d'avion, comme étant un point d'orgue, mais surtout un prétexte. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la rencontre des enfants tout au long de l'année. Son numéro, ils se rencontrent à peu près une dizaine de fois. Donc, ils naissent effectivement des amitiés, des histoires entre eux. Et le tour d'avion, la journée magique, telle qu'on appelle, qui était hier, qui était pour le coup vraiment magique ici, avec le temps qu'on a eu, c'était incroyable. Ces enfants, une centaine d'enfants se sont vus, se sont reconnus, et ils ont volé ensemble. Et au-delà, encore une fois, du vol, c'est faire partager la liberté de voler. C'est, on est en l'air et on est...
C'est très symbolique, ça, finalement.
C'est exactement très symbolique. On pourrait parler de Saint-Exupéry, on pourrait parler de tout un tas de choses. Mais effectivement, un pilote, c'est pas juste une technique, c'est être seul dans les airs. Et faire partager ça à des enfants, effectivement, les extraire de leurs problèmes du sol. Et on fête nos 30 ans l'année prochaine. Oui. On en est à peu près à 45 000 tours d'avion depuis le départ de Rive de Gosse.
Anthony Knapik-Briden, le vice-président de Rêve de Gosse, invité du matin sur Radio Rythme Bleu. Une interview présentée par Lionel Sabot que vous pourrez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Et puis un rendez-vous pour les familles également à compter de la semaine prochaine. Michael Juneski, le grand cirque de Samoa est de retour à Nouméa et les premières représentations sont prévues à compter du 16 octobre.
Oui, son dernier passage, c'était en 2023. La troupe est donc heureuse d'avoir repris ses quartiers en Nouvelle-Calédonie. Ce sera un tout nouveau spectacle que les artistes préparent actuellement. Bruno Loyal Tupai est l'un des responsables du Grand Cirque des Samoa.
Tout le monde est tellement content de revenir pour faire un bon spectacle pour tous les gens aussi en Nouvelle-Calédonie et tous les enfants aussi, spécialement les enfants. On a des nouveaux spectacles bien sûr les danses de Samoa traditionnelles, les artistes qui viennent d'Éthiopie, Vietnam, qui fait les roues de la mort. Aussi, on a les globes de la mort aussi, mais ça, ça va être la fin du spectacle. On a les clowns, les musiciens, les artistes acrobatiques. Et aussi, on a un spécial tout nouveau. C'est un genre de hologramme. Il y a des gros animaux. Et... Venez avec les enfants, les familles, les amis. Dites tout le monde de venir, c'est un nouveau spectacle spécial pour tout le monde encore.
Le chapiteau du Grand Cirque de Samoa n'est pas passé inaperçu à l'entrée de la ville. Entre le Quai Ferry et l'ancien CHT, le public est déjà en attente des premières dates. Les précisions d'Eva Pallade et sa production Nouvelle-Calédonie.
On a un bon retour du public. On est heureux de pouvoir refaire un spectacle comme ça en Calédonie et de pouvoir offrir ça aux enfants et aux adultes. Et oui, évidemment, donc on a plusieurs points de vente et plusieurs billetteries. Auchan Quai Ferry, Auchan Auteuil en point de vente physique. Et après, vous avez ticket-pacifique.nc pour la billetterie sur le web. Et après, on a un point de vente sur place, évidemment, une heure avant chaque spectacle où on peut vendre les tickets. La première date, c'est donc le 16 octobre à 18h.
Et il y aura aussi des goodies sur place, de la restauration, la possibilité de se prendre en photo avec les artistes. Une tournée en brousse de la troupe pourrait également être organisée.
Merci Mickaël Juneski. Il est 11h56. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité internationale notamment et ses hommages après 2 ans après les attaques du 7 octobre.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité à l'étranger, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Nicolas Legrand.
Il y a 2 ans, le 7 octobre 2023, au petit matin, Israël vivait la pire attaque de son histoire sur son sol. Plus de 1200 personnes tuées par le Hamas, 250 otages emmenés de force dans la bande de Gaza. Le traumatisme reste bien sûr immense pour les Israéliens. Des hommages sont organisés dans tout le pays ces dernières heures et notamment à Tel Aviv, à l'appel des familles d'otages. L'envoyé spécial d'Europe 1, Antoine Bienveau, a pu assister à la cérémonie.
Autour de moi, ce sont près de 25 000 personnes qui sont rassemblées dans ce parc au nord de Tel Aviv pour cette grande cérémonie commémorative nationale du 7 octobre. Devant la scène immense se trouvent beaucoup de familles et de proches des victimes, dont Almog, t-shirt noir sur les épaules. L'un de ses meilleurs amis a été capturé par le Hamas et a succombé à ses blessures peu de temps après à Gaza. Alors ce soir, elle profite du réconfort des autres familles, elle est seule à pouvoir la comprendre.
It's definitely one big family, one big sad family.
Nous sommes vraiment une grande famille. Une famille triste qu'on aurait préféré ne pas être. Mais au final, on est tous ensemble. Je ne pense pas que les gens en dehors des familles de victimes pourraient comprendre ce que je vis. Eux, ils savent ce que je traverse, comme personne ne pourrait le comprendre.
Devant elle, sur scène, plusieurs proches des otages, plusieurs rescapés aussi ont pris la parole, accompagnés de musique sur cette scène où la carcasse d'une voiture brûlée le 7 octobre a été déposée, comme pour rappeler l'ampleur des massacres.
Et ce matin, le Premier ministre israélien s'adresse à son peuple en leur promettant le retour de tous les otages. Une déclaration de Benjamin Netanyahou qui intervient en pleine négociation indirecte sur la fin de la guerre à Gaza entre délégations du Hamas, d'Israël et des États-Unis. La Turquie et le Qatar seront également présentes à partir des prochaines heures. Donald Trump estime qu'il existe une réelle chance de conclure un accord de paix. Et ce, malgré les déclarations du Hamas en ce jour anniversaire. L'un des hauts responsables du mouvement qualifie les attaques du 7 octobre de réponse historique, je cite, à l'occupation israélienne. Retour en métropole pour un mot d'actualité judiciaire. Cédric Jubilard mis en difficulté aujourd'hui au 10e jour de son procès devant la cour d'assises du Tarn. Le trentenaire, jugé pour le meurtre de son épouse Delphine en 2020, a été confronté à ses déclarations contradictoires, notamment sur l'existence d'une sortie de Delphine pour promener les chiens du couple avant le signalement de sa disparition, mais aussi au sujet du positionnement inhabituel de la voiture de l'infirmière. Pour l'accusation, le véhicule aurait pu servir à déplacer le corps de Delphine. Charles Huillier pour Europe 1.
Oui, un expert en hydrométrie s'est donc présenté à la barre ce matin. Le but, rendre un avis sur la condensation retrouvée sur sur le pare-brise de la voiture de Delphine, et cela quelques heures après sa disparition. L'expert est prudent mais formel. L'une des causes possibles à ce phénomène, c'est la présence d'un corps dans le véhicule, un corps source de chaleur dans l'habitacle, alors qu'à l'extérieur, la température est descendue à 5 degrés cette nuit-là. La démonstration reste très théorique, car l'expert n'a travaillé que sur des photos, mais Laurent Boguet, avocat des enfants jubilards, estime que l'étau se resserre sur l'accusé.
Vous avez effectivement, de manière constante, de la condensation dans un véhicule, ce qui laisse supposer qu'il a été utilisé. Par la seule personne qui retrouve très facilement les clés, c'est-à-dire Cédric Jubilard, vous avez un sens de stationnement qui a été modifié dans le courant de la nuit. Ça constitue des éléments qui représentent le fameux faisceau probatoire.
Car la matinée a aussi été marquée par un autre témoignage, celui d'un voisin qui lui est formel. Il confirme que la voiture de Delphine a été déplacée durant la nuit.
Le verdict est attendu le 17 octobre prochain. Et en bref, l'actualité sanitaire, la remontée des cas de Covid-19 ces dernières semaines n'est pas assez marquée pour avancer la campagne de vaccination en métropole. C'est ce qu'indiquent aujourd'hui les autorités sanitaires. Les premières doses seront injectées le 14 octobre, comme prévu, de manière à être couplées avec le vaccin contre la grippe. 150 000 autotests ont été écoulés durant la dernière semaine de septembre, soit une hausse de 30% en l'espace de 7 jours. Il est midi passé de 1 minute. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Au Château Royal, votre restaurant Pirogue vous accueille de nouveau avec une nouvelle carte qui sublime le meilleur des produits locaux et saveurs d'ailleurs. Dans une ambiance intimiste et chaleureuse, votre restaurant Pirogue est l'adresse idéale pour un dîner d'exception, en tête-à-tête ou entre amis. Nous vous accueillons le soir, du mardi au samedi, de 19h à 22h. Réservez votre table au 23 01 10 et laissez-vous surprendre. Pirogue, votre restaurant gourmet au Château Royal.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Info Mag, l'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et tout d'abord du tennis et la suite du tournoi Masters 1000 de Shanghai en Chine. Le Serbe Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale du dernier Masters 1000 de la saison.
Oui, et après les éliminations de Sinner, Zverev, Fritz, Shelton et le forfait d'Alcaraz, Novak Djokovic fait désormais figure de grandissime favori pour remporter ce tournoi. Novak Djokovic qui poursuit donc sa route au Masters 1000 de Shanghai où il s'est qualifié pour les quarts de finale en battant l'Espagnol Jaume Muñoz en 3-7. Score final 6-3, 5-7 et 6-2. Djokovic qui affrontera en quart de finale le Belge Zizou Bergs et qui à 26 ans disputera le premier quart de finale en Masters 1000. Le Danois Holger Rune qui est 11e mondial a également rallié les quarts de finale après avoir battu en 3-7 le Français Giovanni Mpetshi Pericard. Score final 6-4, 6-7 et 6-3. Rune qui affrontera pour une place en demi-finale l'étonnant Valentin Vacherot, le monégasque 204e mondial. Son nom vous dit peut-être quelque chose. En effet, on l'avait vu sur les cours du BNC Open de Nouméa, a réussi la perf du jour en battant en 3-7, 4-6, 7-6 et 6-4 le néerlandais Griekspoor, tombeur de Yannick Sinner au tour précédent. Vacherot est le premier représentant de la Principauté de Monaco à atteindre un quart de finale dans un Masters 1000.
Eh bien évidemment, on s'en souvient quand un joueur du Rocher est sur le caillou, ça marque les esprits. Un mot de cyclisme avec une nouvelle victoire de Tadej Pogacar. Le Slovène a remporté les Trois Vallées Varese. C'est en Italie.
9 jours après son titre de champion du monde, je ne l'avais pas tout de suite, et 48 heures après sa victoire au championnat d'Europe, Tadej Pogacar a écrasé cette course en s'envolant vers la victoire après avoir lâché tous les concurrents à plus de 20 km de l'arrivée. L'ogre slovène a signé cette nuit sa 19e victoire de l'année, la 107e de sa carrière, après un énième raid en solitaire. Le Danois Albert Philipsen et le Français Julien Alaphilippe terminent à 45 secondes de Pogacar. Ils ont pris les 2e et 3e places à l'issue d'un sprint d'un peloton condamné encore une fois, mais c'est très souvent hein, depuis le début de la saison, à se disputer les places d'honneur. Paul Lapierra, champion de France en 2024, a pris la 4e place.
Du football chez les femmes avec le coup d'envoi ce matin pour deux clubs français de la première journée de la première phase de la Ligue des Champions.
Et fortune diverse pour ces deux équipes. Lyon s'est imposé 2-1 sur la pelouse des Anglaises d'Arsenal. Quant aux joueuses du Paris FC, elles menaient 2-0 face aux Belges de Louvain. Ah bah oui, mais elles se sont fait rejoindre au score et ont concédé Le match nul à domicile, 2 buts partout. Demain, ce sont les joueuses de l'autre club parisien, le Paris Saint-Germain, qui seront sur les pelouses européennes. Elles seront en déplacement sur la pelouse des Allemandes de Wolfsburg.
Et puis, les fans de basket retenaient leur souffle ces dernières heures, puisque la star des Los Angeles Lakers, LeBron James, se promettait une annonce de la plus haute importance. Même la décision des décisions, disait-il. Beaucoup s'attendaient forcément à découvrir la date de la retraite du King, âgé de 40 ans. Et finalement, il n'en est rien. LeBron James a simplement dévoilé un nouveau spot de publicité pour une célèbre marque de cognac. Il s'était ainsi assuré d'avoir la présence de tous les journalistes et tous les regards tournés vers lui. Voilà donc, c'est sur ce plan marketing que se termine ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain point sur l'actualité, ce sera à 13h avec le Flash. En attendant, vous retrouvez Thierry pour le Café Gourmand.
L'actualité ne s'arrête jamais sur rrb.nc.